Bonjour et merci d'écouter le grand face-à-face de France Inter avec Natacha Polony et Gilles Finkelstein. Dans un instant, retour sur quelques-uns des temps forts de la semaine avec le duel. Avant le débat de ce samedi, comment gouverner la France ? La première ministre Elisabeth Borne a donc fait ce que beaucoup attendaient ou redoutaient. Elle a fait appel au 49-3. Elle engage la responsabilité de son gouvernement, non pas une fois, mais deux fois. Et cette fin de semaine, comme à chaque fois qu'un gouvernement recourt à cet article de la Constitution, on assiste à l'habituel débat entre ceux qui dénoncent un processus démocratique et d'autres pour qui il n'y a pas de déni de démocratie. Bien au contraire, pour Elisabeth Borne par exemple, et je la cite, la France a maintenant un budget cohérent avec les engagements pris devant les citoyens. Alors au-delà de la forme, le fond, que dit cette semaine politique sur la pratique du pouvoir et le rapport au peuple ? Épiphénomène ou nouvel épisode de cette fièvre hexagonale dont parle l'un de nos grands historiens, Michel Vinocq, est l'un des meilleurs spécialistes de l'histoire de la République, auteur de plusieurs livres de référence, de biographie du général de Gaulle, de François Mitterrand. Il publie « Gouverner la France », c'est un recueil de textes passionnants qui paraît dans la belle collection Quarto chez Gallimard. Rendez-vous avec Michel Vinocq dans une vingtaine de minutes.
Le grand face-à-face, Ali Badou sur France Inter.
Le duel entre la directrice de Marianne, Natacha Polony, et le directeur de la Fondation Jean Jaurès, Gilles Finkelstein. Salut les amis.
Bonjour.
Bonjour.
Et pour commencer le duel, on va revenir sur cet événement dramatique. Après le meurtre de Lola, cette petite fille qui a été assassinée vendredi à Paris, un acte d'une extrême violence, on a entendu la famille de Lola clairement dire son opposition, son refus de toute exploitation politique. En vain, on a vu les débats dans l'hémicycle, dans les médias aussi, un rassemblement du Rassemblement National devant l'Assemblée, une manifestation des soutiens d'Éric Zemmour et d'autres groupes d'extrême droite jeudi en fin de journée à Paris, place d'Enfer Rochereau. Éric Dupond-Moretti, le ministre de la Justice et garde des Sceaux, ce mardi 18 octobre, lors des questions au gouvernement à l'Assemblée Nationale. Écoutez-le, il répondait, Éric Dupond-Moretti, à l'interpellation du député Les Républicains Éric Pogé, qui accuse le gouvernement d'être en partie responsable, je mets le mot entre guillemets, le gouvernement en partie responsable de ce drame.
Faire de la petite politique, de la petite poloche, se servir du cercueil d'une gamine de 12 ans comme on se sert d'un marchepied, c'est une honte, monsieur le député. Et je pense que le meilleur reste à venir dans quelques instants, car vous êtes toujours au rendez-vous du malheur dont vous faites depuis des années votre miel.
C'était donc Éric Dupond-Moretti. Natacha Polony, on a tous été émus évidemment et frappés par l'horreur de ce meurtre de Lola. Malgré tout, comment est-ce que vous avez perçu, comment est-ce que vous analysez la manière dont c'est devenu un sujet qui a enflammé le débat public ?
Alors d'abord, il faut en effet, sur un sujet aussi atroce, faire attention à ce qu'on dit et être extrêmement mesuré et nuancé. Et de fait, à chaque fois qu'un fait comme celui-là arrive, on a le contraire de la nuance, c'est-à-dire des gens qui vont dans la caricature de tous bords. C'est-à-dire que c'est ça qui est terrifiant, on pourrait écrire la partition de chacun, en fait. Et là, en l'occurrence, la question est de savoir, la seule question qui se pose, c'est est-ce que c'est la fatalité ? Est-ce que c'est ce qu'on appelle un fait divers, c'est-à-dire, eh bien, cette petite fille au mauvais endroit, au mauvais moment, on n'y peut rien, ça a toujours existé. C'est ce que disent certains, mais qui, en général, ne disent pas la même chose quand c'est une tragédie qui répond à leurs agendas politiques. Et de l'autre côté, on a très bien vu Éric Zemmour essayer de nous vendre son concept de francocide, qui est une espèce de concept absurde et creux qu'il plaque en fait sur le modèle du féminicide. On a vu immédiatement sur les réseaux sociaux, évidemment, l'instrumentalisation du fait que cette petite fille blonde avait été tuée par une Algérienne avec quatre Algériens au départ interpellés. Et tout ça, immédiatement, est monté. Et on savait que ça allait arriver. Alors la question, c'est, à partir des quelques éléments qu'on a, parce qu'en plus, on n'en a pas beaucoup et il faut être extrêmement prudent, que penser ? Parce que, quand même, ce n'est pas exactement la fatalité dans la mesure où il y a des choses à penser sur ce fait. Premier point, en effet, on ne peut pas faire abstraction du fait que cette femme était frappée d'une OQTF, d'une obligation de quitter le territoire français, voilà, et que ça fait déjà plusieurs fois que on a des meurtres tragiques de la part de gens qui sont frappés par des OQTF. Ce qui ne signifie pas qu'il n'y ait pas de meurtre tragique par des gens qui ne sont absolument pas concernés par ça. C'est pas ça le problème. Mais en l'occurrence, quand il y a une OQTF, on s'aperçoit que elle n'est pas exécutée et que parfois, dans de rares cas, ça peut donner lieu à cela. Alors la question qui suit, et qui est à mon avis la plus fondamentale, cette jeune femme, visiblement, était fragile et on voit bien à quel point on ne sait même pas si elle pourra un jour être jugée. Parce que c'est ça la question, la question de la responsabilité. Et là, derrière, c'est toute la question de la psychiatrie en France qui se pose. C'est-à-dire que vous avez, parmi les SDF, vous avez dans les prisons, vous avez en général, en France, un nombre de gens qui ne sont pas suivis alors qu'ils relèvent, non pas de la question de la santé mentale, on n'est pas en train de parler de névrose là, on est en train de parler de psychose, de gens qui sont malades, qui doivent être traités. Et la psychiatrie est dans un état de pauvreté, de misère totale. Et le problème, c'est que quand vous avez des gens qui arrivent sur le territoire français en ayant vécu des cauchemars, des horreurs, des traumatismes, eh bien, si on n'anticipe pas, si vous ne traitez pas ces gens-là, il peut y avoir des fragilités, des passages à l'acte. Il serait temps quand même de se poser ce genre de questions.
Gilles.
Événement dramatique, avez-vous dit, Ali. Il y a eu, je crois, une émotion très forte dans le pays qui tient au fait que c'est le meurtre atroce d'une enfant, qui est le tabou ultime des sociétés contemporaines, mais aussi parce que ça s'inscrit dans le contexte d'une rentrée qui a été marquée par une succession d'événements à Nantes, à Marseille, de faits divers très très violents, et d'une société dans laquelle c'était tout un volet que nous avons posé dans l'enquête sur les factures françaises. Vous avez 90% des Français, ce qui est absolument considérable, qui disent avoir le sentiment de vivre dans une société violente, et pour le même chiffre, d'une violence qui est en augmentation. Alors, au-delà de l'émotion, que penser, disait Natacha, je crois qu'il y a au moins deux sujets différents. Il y a le sujet de l'exploitation politique de cette affaire et le débat de fond sur les obligations de quitter le territoire. Sur l'exploitation politique, que des questions soient posées, ça me paraît légitime, non seulement inévitable, mais même légitime. Qu'une campagne politique soit orchestrée en dépit de ce qu'a dit la famille, c'est vraiment abject. Quand on regarde, et je crois que c'est ça qui est intéressant, la stratégie qui a été celle, en l'espèce, de reconquête du parti d'Éric Zemmour, ça dit beaucoup de choses d'un parti qui n'est pas présent à l'Assemblée et qui déploie une vraie stratégie sur les réseaux sociaux. Une vraie stratégie numérique qui est coordonnée par Samuel Lafon, qui est très doué pour ça. C'est un peu Papivoise à l'ère numérique. Hein, Papivoise, c'était ce vieux monsieur qui s'était fait tabasser juste avant l'élection présidentielle de 2002. Et c'est cette exploitation-là, avec les ressorts de la société d'aujourd'hui, c'est-à-dire une politisation via les réseaux sociaux de ceux qui sont loin de la politique. C'est ça qui est l'objectif. On achète des noms de domaine, on crée un site ad hoc apolitique. C'est un réceptacle de la colère avec des pétitions. Et derrière ces pétitions, l'idée, c'est de recueillir des données pour pouvoir après envoyer des contenus et politiser ces gens-là et les amener à la cause. Le dernier étage.
Ah, donc ça n'est pas seulement de la récupération politique, il y a aussi une véritable stratégie derrière, une stratégie numérique et du marketing, un usage du drame.
Absolument, et la dernière étape, c'est celle qu'a évoquée Natacha, c'est-à-dire qu'on rentre par la biographie, ce que les gens vivent et ce que les gens voient, parce que c'est comme ça que se fait la politisation, et on amène ensuite à l'idéologie, et c'était la dernière étage, qui est le concept de francocide, alors même qu'il n'y a pas le moindre début d'élément dans ce que l'on sait aujourd'hui pour dire que c'est parce qu'elle était française que cette jeune fille a été tuée. Ça, c'est sur l'exploitation politique. Maintenant, sur l'autre sujet, qui est un sujet très compliqué, celui des OQTF, des obligations de quitter le territoire, puisque la principale suspecte avait fait l'objet d'une OQTF et qu'elle n'avait pas quitté le territoire. Au-delà du cas d'espèce, c'est un débat qui est un débat récurrent et c'est une situation qui est problématique, voire inacceptable. Et je crois que, y compris pour la gauche, le seul moyen de convaincre de la légitimité des entrées sur le territoire français pour l'asile, pour le regroupement familial, pour les étudiants, c'est qu'il y ait une effectivité des sorties lorsqu'elles sont prononcées par la justice. C'est difficile, mais je crois qu'il faut tenir cette ligne-là. Or, le constat est très simple, c'est qu'il y a peut-être trop d'OQTF, mais il y a un pourcentage d'OQTF exécuté qui est ridiculement bas, c'est aux alentours de 20% sur les 10 dernières années, c'est plus bas que dans beaucoup d'autres pays. Une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose en réalité. Parce que quand on rentre dans le cœur du dossier et qu'on essaye de comprendre pourquoi les OQTF ne sont pas exécutés, on voit que c'est difficile. C'est difficile parce que d'abord, dans l'immense majorité des cas, la personne qui doit quitter le territoire n'est pas présente au moment où elle est prononcée. Mais au-delà même de ça, c'est difficile parce que on manque de manière considérable de centres de places dans les centres de rétention administrative. Et donc, je crois qu'il faut qu'on ait le débat pour savoir comment on fait pour exécuter davantage les décisions de justice sur ce sujet-là.
D'un mot, Natacha.
D'un mot, on peut ajouter aux difficultés le fait que être présent sur le territoire français clandestinement, sans en avoir le droit, n'est plus un délit. Et que donc, vous ne pouvez plus être interpellé pour ça. Ce qui rend encore plus difficile, évidemment, le fait de faire appliquer les OQTF. C'est absurde comme situation. Mais je termine juste en y insistant. L'état de la psychiatrie en France, c'est un enjeu là aussi qui est totalement oublié, pardon, mais c'est quand même le cœur du problème aussi.
Le grand face-à-face continue.
Le grand face-à-face. Le duel.
Le prix des véhicules électriques est fortement exposé au prix des matières premières. Or, le prix des matières premières est une partie très importante de la structure de coût des batteries. Et donc, ce qu'on peut également anticiper, c'est que, en fonction des fortes fluctuations du prix des matières premières, le prix des véhicules électriques sera aussi volatile, beaucoup plus que le prix des véhicules thermiques aujourd'hui.
Le prix, le nerf de la guerre, l'accès aux véhicules électriques. Carlos Tavares, c'est le directeur général de Stellantis. Vous l'entendiez, il était l'invité de France Info ce mardi. Carlos Tavares, qui est à la tête d'un des plus grands groupes automobiles au monde. Peugeot, Citroën, Opel, Fiat, Jeep ou encore Maserati. On ne compte pas les marques de ce groupe. Carlos Tavares, qui s'exprimait sur l'avenir de la bagnole en pleine semaine du Mondial de l'Auto à Paris. Coïncidence, en pleine pénurie de carburant dans de très nombreuses stations-service en France. La semaine dernière, Gilles et Natacha, nous parlions de mobilité douce, d'ailleurs qui ne le sont pas toujours. On parlait de vélo électrique, de trottinette. Cette semaine, vous vouliez revenir sur l'avenir de l'automobile et particulièrement des véhicules électriques, Gilles.
Dans la France sous nos yeux, l'essai de Jean-Laurent Casselli et Jérôme Fourquet, qui est un grand succès de Libéry, ils ont développé le concept du mode de vie majoritaire autour d'un triptyque, la maison, la voiture, le supermarché. Et on a créé une société dans laquelle la voiture est quasiment en situation de monopole. Et il faut regarder l'évolution du parc automobile. En 1980, on est à 20 millions d'automobiles, en 2000, 33 millions, en 2020, plus de 40 millions. Donc, on a ça d'un côté. Et d'un autre côté, on a la crise climatique, où en France, la première cause d'émissions de gaz à effet de serre, ce sont les transports, loin devant le bâtiment, l'agriculture et l'industrie, et dans laquelle la première cause pour les transports,
c'est la voiture. Et donc, on a la confrontation de notre mode de vie d'un côté et de la crise climatique de l'autre. Le point de sortie qui a été décidé, et on peut, après des débats, et des débats qui sont légitimes, est 2035, et peut-être même avant, la fin de la vente des voitures thermiques.
Thermique, ça c'est le calendrier annoncé, l'objectif du président de la République.
Et je pense que ce sujet-là, cette transition-là, est un des plus grands défis, à la fois sociaux, industriels, pratiques, que la France doit affronter dans les prochaines années.
2035, c'est quasiment demain, c'est vous demain. Y avez consacré un dossier dans Marianne.
Oui, justement parce que c'est demain et que la question c'est de savoir si on a réellement réfléchi aux implications ou si on est dans une espèce de grande pétition de principe en se disant c'est formidable, on va y aller, en commettant les mêmes erreurs qu'on a pu commettre sur l'ensemble des choix des 20-30 dernières années.
La question c'est on va y aller ou on y va de toute façon ?
On y va. La question première c'est faut-il y aller aussi vite et totalement ? C'est-à-dire créer des nouvelles dépendances au lieu d'essayer de penser quelque chose qui aille dans le sens de ce que disait Gilles, puisque le cœur du propos de Gilles, c'est quand même de dire qu'on a créé une société entièrement centrée autour de la voiture. Le premier problème est peut-être celui-là. Et qu'on passe au véhicule électrique ne changera pas ce problème-là, dans la mesure où il faut quand même rappeler deux, trois choses. C'est-à-dire que l'empreinte carbone d'une voiture électrique, elle est au départ à la construction plus importante qu'une voiture thermique. Alors ça se comble au bout de 40-50 000 kilomètres pour les voitures de poids faible, parce que tout le problème est là. C'est-à-dire quand on voit, par exemple, certaines marques, notamment françaises, qui sortent des SUV électriques, mais c'est une absurdité. C'est une absurdité parce que vous avez besoin, dans ces cas-là, d'un poids de batterie qui est complètement dingue. Et vous avez besoin de métaux, ce qu'on appelle des terres rares, des métaux rares pour faire des batteries, oui. 63 kilos de métaux pour une batterie de Zoé, c'est-à-dire un petit truc. Donc,
c'est
là
une
aussi,
petite voiture produite par Renault.
Voilà, et vous allez donc avoir besoin de cobalt. Je rappelle que le cobalt, on en trouve en Chine ou au Congo,
République démocratique du
Congo, aux mains de milices ultra-violentes qui le revendent ensuite au Rwanda, qui le diffuse ailleurs. Donc, il y a des problèmes géopolitiques majeurs. Il y a des problèmes sociaux également. Qui va construire ces batteries ? Comment ? Emmanuel Macron lance un grand chantier, mais évidemment. Emmanuel Macron lance un grand chantier. Il explique dans une interview très posée aux Échos que on va donner une prime, on augmente la prime, 7 000 euros pour les ménages les plus fragiles. Bon, 7 000 euros, quand une voiture électrique coûte au moins 35 000 euros.
Enfin, vous parlez pour les marques haut de gamme, et en l'occurrence, pas des marques françaises, mais Tesla, marque américaine.
Ah, mais ça peut monter beaucoup plus, là. Beaucoup plus. Mais le prix moyen d'une voiture électrique, ça reste cher. Et surtout, derrière, Emmanuel Macron dit, mais nous fabriquerons des batteries en Europe, etc. Mais le problème, là, ce serait de ne pas mettre la charrue avant les bœufs. Donc, l'enjeu, c'est de relocaliser la fabrication, c'est de trouver des dispositifs et des fournisseurs européens de batteries, donc une véritable filière industrielle, c'est de penser à l'approvisionnement, de penser au recyclage. Il faut beaucoup plus de cuivre pour les voitures électriques. Or, le cuivre est tellement en tension qu'on voit des vols de caténaires qui empoisonnent la vie de la SNCF. Donc là aussi, travailler sur l'usage d'autres métaux, l'aluminium est une solution. Enfin, il y a plein de choses à faire. Mais si on se contente de dire on va tous passer à l'électrique en 2035, ce sera un fiasco.
Carlos Tavares, Gilles qui rajoutait, l'Union européenne a déroulé un tapis rouge devant les constructeurs chinois. L'Union européenne offre aux constructeurs chinois des conditions de mise en concurrence qui sont bien plus favorables en Europe qu'elles ne sont favorables pour les constructeurs occidentaux sur le marché chinois. Et le problème pour lui est un problème purement économique, plus qu'un problème de mode de vie, puisque si on ne fait pas les batteries sur notre sol en Europe ou en France, on risque d'exporter 100% de la valeur ajoutée du véhicule en dehors de nos frontières.
Carlos Tavares a donné plusieurs interviews qui étaient très, très intéressantes, notamment dans le journal L'Équipe, dans lequel il répond, au moins en creux, à la question que posait Natacha, faut-il y aller aussi vite ? Et il montre...
Lui trouve qu'on y va trop vite.
Une certaine interrogation pour
en Europe.
Bon. Je crois que ce débat, il est largement derrière nous maintenant. Une date a été fixée. Maintenant, l'enjeu, d'ailleurs l'enjeu
pour les pouvoirs publics français et pour les constructeurs français, c'est de bâtir une stratégie pour que tout ça se passe aussi bien que possible. Et je crois que ça peut ne pas se passer trop mal. Emmanuel Macron, dans cette interview dans Les Échos, développe une stratégie globale, à la fois sociale, industrielle, opérationnelle, pratique. Est-ce que c'est suffisant? Peut-être pas, mais je crois que c'est quand même la direction dans laquelle il faut s'engager.
Mais avec une inconnue qui est celle des conséquences sur l'emploi.
Alors, il y a, dans la dimension sociale, on parle souvent à raison. Et vous l'évoquiez tout à l'heure, du prix des véhicules et donc de la possibilité pour ce mode de vie majoritaire, ces Français-là, d'acheter un véhicule électrique ou de le louer, puisqu'il y a des solutions alternatives qui sont en train d'émerger. Mais on oublie trop souvent, dans la dimension sociale, les salariés à la fois des constructeurs et des...
C'est à eux que je pensais, justement.
Et des sous-traitants, où il y a à la fois, pour certains d'entre eux, un problème de reconversion, et puis, pour une partie qui sera une partie sans doute importante, peut-être on parle du quart des salariés, des restructurations, des départs, il y aura sans doute moins de salariés parce qu'il y a besoin de moins de personnel pour faire une voiture électrique, une voiture thermique. Donc il y a ce défi-là. Nous n'oublions pas les défis concrets.
D'un mot.
La question, par exemple, des bornes. S'il n'y a pas de bornes, les Français ne voudront pas acheter, et ce n'est pas seulement une question de prix.
Il va falloir les standardiser, les bornes.
Et enfin, la question de l'électricité, parce que pour que tout ça fonctionne, il faut qu'il y ait de l'électricité. Ça renvoie à ce qu'on a évoqué beaucoup sur la stratégie de notre mix énergétique. Et dans l'immédiat, puisque là on parle de 2035, ce n'est pas le nucléaire, ce sont les ENR.
Et on aura l'occasion d'y revenir. Le duel continue.
Le grand face-à-face. Le duel.
Officiellement, ce report est lié à des questions d'agenda. Mais à Paris comme à Berlin, on reconnaît que ce sont aussi les désaccords de fond qui obligent à temporiser.
Drôle d'ambiance dans le couple en ce début de conseil. Certes, les dirigeants français et allemands se sont vus une petite demi-heure en tête-à-tête à l'ouverture des travaux. Certes, chacun a bien précisé qu'il œuvrait à l'unité européenne et à la bonne entente franco-allemande, mais on retiendra surtout cette mise en garde signée Emmanuel Macron.
Je pense qu'il n'est pas bon qu'un pays s'isole. Et donc, je pense que notre rôle, c'est de tout faire pour qu'il y ait une unité européenne et que l'Allemagne en fasse partie.
Les journalistes Frédéric Seize et Louise Baudet sur l'antenne d'Inter cette semaine. Et le président de la République qui poursuivait à son arrivée à Bruxelles au Conseil européen. Je ne dirais pas qu'il y a une panne en ce qui me concerne. Je souhaite vraiment qu'on puisse trouver des voies de convergence. Ce Conseil européen avait donc lieu cette fin de semaine à Bruxelles. Mais en revanche, le Conseil des ministres franco-allemands qui était lui prévu le 26 octobre est reporté à janvier. Natacha et Gilles, vous vouliez revenir l'un et l'autre, ce qui pour beaucoup d'entre nous n'est pas un événement. Le report d'un Conseil des ministres franco-allemands, est-ce que c'est si important? Le couple bat de l'aile, Gilles?
Vous connaissez la formule de Boileau, il faut nommer un chat et relais un fripon, eh bien, il faut appeler un chat, et ce report est une crise. Je crois qu'il faut d'abord nommer la chose. Elle a une traduction spectaculaire, c'est la première fois depuis que ces conseils annuels existent qu'il est reporté, et ça s'explique par des divergences profondes, des divergences nombreuses sur les questions d'énergie, sur les questions de défense. Donc, d'abord nommé, c'est une crise. Si on essaye ensuite de comprendre, il y a un premier niveau de compréhension qui est l'histoire des relations franco-allemandes et cette idée, cette illusion de croire que l'on passe de la lumière à l'ombre. Les relations franco-allemandes ont toujours été compliquées. Là, elles sont plus compliquées. Ça fait penser un peu à la crise qu'on a connu au début des années 2000 au moment du traité de Nice, lorsque les Allemands ont vu que la démographie allemande après la réunification faisait qu'ils étaient plus nombreux que les Français et qu'ils ont voulu que ce poids démographique se retrouve dans les institutions européennes. Il y a eu une crise très forte à ce moment-là. Je crois qu'on est dans quelque chose du même ordre. Et puis, il y a le contexte allemand qu'il faut, je crois, bien avoir en tête. On a un nouveau contexte politique avec une nouvelle personnalité, Olaf Scholz, qui est difficile à cerner, y compris pour les Allemands. Une nouvelle coalition qui fait que c'est compliqué de trouver un accord à l'intérieur de la coalition et donc ça laisse pas beaucoup de marge pour négocier après avec d'autres. Une nouvelle génération de députés allemands, vous avez 100 députés allemands qui ont moins de 35 ans et qui n'ont pas le même vécu que les autres. Et surtout, je crois que c'est l'élément le plus important, un nouveau contexte géopolitique avec une crise du modèle allemand qui était fondée sur le parapluie nucléaire américain, les exportations chinoises, le gaz russe. Vous avez au moins deux de ces éléments du pilier qui sont en train de s'affaisser ou de s'ébranler. Et ça produit, je crois, une grande inquiétude en Allemagne. Maintenant, il faut surmonter cette crise-là.
Natacha Polony.
Alors, s'il faut appeler un chat, il faut en effet dire qu'il y a là la conséquence de cet affaiblissement du modèle allemand, c'est-à-dire que cette fragilisation, l'Allemagne tente de la résoudre en jouant encore plus cavalier seul. Et pour la première fois, il y a un semblant de véritable rapport de force, dans le sens où on voit des pouvoirs publics français, un président français qui donne le sentiment de ne pas vouloir être les dindons de la farce, comme à chaque fois. Parce que, résumons, l'Allemagne a construit sa prospérité récente sur un point essentiel, la constitution d'un excédent commercial et donc d'un excédent budgétaire absolument faramineux sur le dos de ses partenaires européens. C'est un jeu, en fait, qui n'est pas à somme nulle. Or, l'Allemagne veut sauver cet excédent commercial en garantissant la compétitivité de ses entreprises, en déversant 200 milliards d'euros, c'est normal, elle a les fonds, pour aider ses entreprises, ce qui crée une distorsion de concurrence majeure. Les autres pays d'Europe veulent empêcher cela, et on voit très bien qu'une fois de plus, c'est un cavalier seul. L'Allemagne vient d'annoncer un grand projet de bouclier antimissile, en s'appuyant sur une technologie israélienne et sur Boeing, et en s'appuyant, en faisant cela avec quasiment tous les pays d'Europe, notamment d'Europe de l'Est, sauf la Pologne, mais il y a quelques tensions très très fortes entre la Pologne et l'Allemagne, et sans la France, sans nommer la France. Donc là aussi, le message est extrêmement clair. Ça veut dire que la France, avec sa dissuasion nucléaire, ça n'est pas un partenaire pour l'Allemagne. L'Allemagne a décidé de mener sa stratégie sous le parapluie américain. Donc, il va être très important de voir comment ça va se jouer. C'est très amusant si ce sommet est reporté au mois de janvier, c'est-à-dire au moment de l'anniversaire du traité de l'Élysée, qui est sans doute le moment qui a mis fin, en fait, à l'espoir d'une Europe que De Gaulle disait européenne, c'est-à-dire d'un véritable couple franco-allemand indépendant des États-Unis, puisqu'on sait qu'à ce moment-là, Adenauer s'est fait avoir par Ludwig Erhard, qui, à la demande des Américains, a ajouté ce codicille au traité de l'Élysée qui permettait de dire que, finalement, tout ça était très gentil, mais ce qui comptait, c'était les alliances, notamment celles de l'OTAN.
Merci pour ce rappel historique. À suivre dans le grand face-à-face, justement, le débat avec l'historien Michel Vinoc.
France Inter, le grand face-à-face, le débat.
En débat ce samedi, comment gouverner la France? Le gouvernement aura donc utilisé par deux fois l'article 49.3 de la Constitution, mercredi et jeudi, pour faire adopter deux textes absolument essentiels pour la vie de la nation. L'un porte sur le budget du pays, l'autre sur le financement de la Sécu. Mesure antidémocratique, accuse les oppositions. De son côté, le gouvernement revendique l'usage d'un outil parfaitement légal et il engage sa responsabilité devant le Parlement. Alors, rien de nouveau sous le soleil de la 5e République pour les uns, aveu de faiblesse de l'exécutif pour d'autres, et certains voient même dans cette semaine politique les signes d'un système à bout de souffle. Notre invité est l'un de nos grands historiens, spécialiste reconnu de l'histoire de la République. On lui doit plusieurs ouvrages de référence, des livres sur De Gaulle, François Mitterrand notamment, ce qu'il a appelé la fièvre hexagonale, et plusieurs de ses textes sont réunis dans un livre qui paraît dans la prestigieuse collection Quarto chez Gallimard, le titre « Gouverner la France ». Bonjour Michel Vinoc.
Bonjour.
Et bienvenue, on va prendre un peu de recul, un peu de hauteur avec vous aujourd'hui, avant de revenir sur vos travaux, avant de revenir sur le temps long. Que vous inspire cette semaine politique qui s'achève, ces débats au Parlement avant le recours, avant les recours au 49-3 ? L'historien de la République que vous êtes, regarde ça comment ?
Je suis partagé entre une certaine satisfaction de voir que la majorité relative peut être l'apprentissage d'un véritable exercice démocratique. Et d'un autre côté, je suis pessimiste parce que pour qu'il y ait cet apprentissage, encore faudrait-il qu'il y ait de bonne volonté. Et le gouvernement actuel ne peut guère compter sur des oppositions qui sont radicales et qui, dès le début, disent, n'est-ce pas, qu'elles ne feront pas de compromis. Voilà, alors, tout va, je dirais, être tranché dans la durée. Est-ce que, malgré cette radicalité si française, on arrivera à précisément des solutions de compromis, d'alliances même ponctuelles, des majorités d'idées, comme on disait jadis, et que, bon an, mal an, le système continue à fonctionner, la loi est votée, et très bien. Ou bien est-ce que, inévitablement, en raison de ce radicalisme des oppositions, on en arrivera à la dissolution de l'Assemblée? Et là-dessus, personne ne le sait.
Personne ne le sait. On va explorer cette alternative. Vous parlez d'optimisme ou de pessimisme. Juste d'un mot avant de donner la parole à Gilles et à Natacha. On a pu penser, en tout cas certains ont pu penser, que le fait que le président de la République n'ait pas de majorité absolue, mais une majorité relative pour le soutenir au Parlement, c'était finalement peut-être une bonne chose. Que finalement, ce serait enfin à l'Assemblée nationale que se décideraient les grandes orientations du pays. L'usage du 49-3, est-ce qu'il n'enseigne pas exactement l'inverse? C'est-à-dire qu'au fond, le centre de gravité du pouvoir ne s'est pas déplacé dans la Ve République. Les décisions se prennent à Matignon, à Bercy, à l'Élysée.
Oui, mais si le 49-3 est utilisé, c'est bien parce que le compromis est impossible, le compromis global, il peut l'être sur tel ou tel point. Et le 49-3 est parfaitement légal. Dès les débuts de la Ve République, Michel Debré, Georges Pompidou l'emploient. Et ne parlons pas de Michel Rocard, qui l'a employé d'une manière la plus fréquente.
Lui qui était justement un homme qu'on disait être un homme du compromis, qui avait fondé son gouvernement sur une alliance avec le centre.
Exactement. Alors, le 49-3, c'est légal. Mais est-ce que c'est légitime? Alors, c'est la question. À mon sens, dans l'état actuel des choses, c'est légitime, puisqu'il n'y a pas de solution de rechange. Si vous aviez effectivement une opposition unie qui dirait « Nous avons un projet de budget absolument différent du vôtre et nous sommes en force pour l'imposer », alors à ce moment-là, le 49-3 est abusif.
Oui.
Donc, le 49-3, c'est une invention, n'est-ce pas, des constituants, de ceux qui ont fabriqué la constitution gaulliste, qui me paraît une chose normale. D'autant que, vous savez qu'avant, on pouvait l'utiliser à tout propos. Et maintenant, depuis la réforme de 2008, on ne peut l'utiliser qu'une fois par session, et évidemment, on peut l'utiliser pour la discussion budgétaire et celle
et
de la sécurité sociale.
Sur ces textes-là, donc les textes
exactement
majeurs, et c'est paradoxal, c'est sous l'hyper-président Nicolas Sarkozy qu'on a donc limité l'usage du 49-3. Gilles Finkelstein, puis Natacha Polony. Gilles.
D'abord, pour vous dire qu'en regardant les différents essais qui compose ce gouverner la France, on mesure à quel point on a grandi avec vous, de la fièvre hexagonale jusqu'aux biographies de De Gaulle et Mitterrand, en passant par le formidable 13 mai.
Le 13 mai? Quelle année?
13 mai 58.
Bravo.
Non, parce qu'il y a d'autres.
Pourquoi le 13 mai 58?
Il y a d'autres 13 mai, donc ça aurait pu être le 13 mai 68 aussi, qui est une grande date de notre histoire.
Non, mais ne faites pas le malin. En l'occurrence, pour nos auditeurs qui ne sont pas spécialistes d'histoire politique, Michel Vinoc, le 13 mai 58.
Le 13 mai 58.
Le 13 mai 58, c'est?
Le 13 mai 58 est le moment où la 4e République bascule et où De Gaulle s'empare du pouvoir et on avance vers la Ve République.
Merci pour le rappel des faits.
Et je disais, au-delà de l'histoire, le grand plaisir, c'est la plume, l'écriture, le sens du récit. Et j'étais très frappé, la dernière phrase de Mona Ozouf dans la petite préface, elle dit une boutade de Mauriac, je prendrai la politique, je la baptiserai littérature et elle le deviendra aussitôt. Je trouvais que c'était une formidable formule. Je voudrais revenir et prolonger la question d'Ali, parce que vous avez co-présider le dernier grand travail collectif sur les institutions avec Claude Bartolone, qui s'appelait « Refaire la démocratie » avec de très nombreuses propositions sur de très nombreux sujets. Et justement, il n'y a rien sur l'article 49-3. Et donc là, ma question, elle n'est pas sur sa légitimité, sur la pratique, mais sur le texte lui-même. Est-ce que vous considérez qu'avec la révision de 2008 et donc la limitation de l'usage du 49-3, on est arrivé à un équilibre qui est satisfaisant?
Michel Vinocq.
Oui, je le crois. Évidemment, c'est l'expérience qu'il démontrera. Mais comme je l'ai dit, dans la conjoncture actuelle, il me semble que le 49-3 est utilisé légitimement par le gouvernement. Maintenant, qu'arrivera-t-il dans les années qui vont venir, même dans les mois qui vont venir? On n'en sait rien. Il y a tout de même une difficulté à gouverner ce pays, quel que soit, je dirais, le contexte. Et cela, on pourra en reparler.
On va y venir avec ce cycle
avec
de
un
crise.
Regard historique. Et si j'ai appelé ce livre « Gouverner la France », entre parenthèses, c'était peut-être une antiphrase.
C'est impossible de gouverner la France, ou les Français.
Gouverner la France, c'est un défi permanent. C'est un défi permanent. Néanmoins, ça marche, on peut dire, puisque la France n'est pas à la queue des pays démocratiques. Mais il y a une difficulté fondamentale, et je dirais que c'est cette difficulté qui est l'objet de ma réflexion, à la fois historique et politique. Mon expérience fondatrice en politique, c'est Mendès France. J'ai 17 ans, je suis en classe terminale, et le gouvernement de Mendès France a été formé à ce moment-là, et ça a été pour mes camarades de classe un enthousiasme de voir que cet homme était déterminé, décidé. Et il arrive et il dit en 4 semaines, je vous demande 4 semaines pour faire la paix en Indochine. Et il l'a fait. Nous sommes éblouis. Bon, eh bien, au bout de 7 mois et quelques semaines, il est renversé. Renversé par une majorité, une opposition complètement hétéroclite. Les communistes, l'OMRP et la droite colonialiste. Et à ce moment-là, je me dis quand même, cette 4e République, ce système parlementaire à la française, ça ne marche pas. Voilà, ça a été ma première expérience politique.
Natacha Polony.
Alors, quand on lit finalement ce qui est une promenade dans l'histoire de la France depuis la Révolution, on s'aperçoit, donc vous le soulignez, que il y a cette récurrence de crise et il y a cette radicalité dont on comprend qu'elle est héritière, en fait, de la Révolution et de l'espèce de manichéisme qui s'est mis en place. L'autre, le camp d'en face, c'est toujours les salauds. Et c'est aussi, sans doute, l'héritage des guerres de religion, c'est ce que vous semblez expliquer. Mais à ceci près que on comprend que vous soulignez le fait qu'il n'y a jamais eu de véritable bipartisme en France. C'est-à-dire, on a 400 fromages et on a des terroirs politiques. Où en est-on aujourd'hui? C'est-à-dire, comment analysez-vous cet aboutissement actuel où vous avez un centre hypertrophié, deux radicalités différentes, mais qui sont des radicalités, malgré l'accord de la NUPES, malgré le fait que le Parti Socialiste l'ait en partie rejoint, on a ces deux pôles. Qu'est-ce que ça signifie?
Vous parlez de la NUPES d'un côté et du Rassemblement National,
voilà,
comme les deux radicalités
comme
qui
deux formes de radicalité, même si je ne mets pas ça sur le même plan, et même si surtout je pense que la NUPES est beaucoup plus large, oui, beaucoup plus et moins radicale dans son ensemble. Mais comment on sort de ce système-là dont on voit bien que la seule alternance possible n'est pas forcément très souhaitable?
Michel Vinocq.
Alors, je corrige légèrement votre idée selon laquelle il n'y a pas eu de bipartisme ou de bipartition en France. C'est vrai, jusqu'à la 5e République. Et c'est un paradoxe.
Vous avez beaucoup écrit sur le général de droite-gauche.
Le général de Gaulle ne voulait pas du tout, vous savez comment il maudissait le système des partis, mais voilà, il instaure le suffrage universel, l'élection du président de la République, le suffrage universel. Ah, 2 tours. Et que se passe-t-il au 2e tour? Évidemment, il n'y a plus que 2 candidats. Donc, les forces politiques ont tendance à se bipolariser. Et ce qui est arrivé...
Et puis, il n'aimait pas un parti, il a quand même fondé le RPF, ce qui n'est pas rien.
Oui, mais lui, le RPF,
c'était
l'idée...
Enfin, c'est-à-dire, il a inventé une machine de guerre électorale...
Oui, mais l'idée du RPF, ça restait le rassemblement, n'est-ce pas? Et il n'avait pas l'idée, non, justement, il ne voulait pas du tout de ce système, disons, de démocratie britannique, avec une gauche ou une droite, une majorité, une opposition, qui alterne. Et pourtant, c'est ce qu'il va créé sans le vouloir.
Oui, mais regardez cette semaine, Michel Vinocq, cette semaine, on se dit que gouverner la France, c'est moins une mission impossible, comme vous le dites, que c'est une mission impossible, par exemple, en Italie, où on a l'incapacité à former un gouvernement, où on a la Liz Truss qui a démissionné et un parti qui conservateur qui ne sait plus où il est ni où il habite. Faut-il retourner devant les électeurs? Faut-il nommer un nouveau chef de parti? Bah finalement, le système français, il est peut-être pas bipartisan, mais il fonctionne.
Mais là, vous m'entraînez sur une autre question, n'est-ce pas? C'est que faut-il, pour gouverner la France, nécessairement un exécutif très fort, unique en Europe, qui dispose de tous les pouvoirs? Eh bien, on peut en discuter. Alors, je voudrais quand même terminer de répondre à Natacha, c'est que ce bipartisme ou cette bipartition, eh bien, s'est effondré en 2017. Et 2017 crée un véritable tournant.
L'élection d'Emmanuel Macron.
Ah oui. Et surtout l'effondrement des partis de gouvernement, de gauche et de droite. Et ça recommence en 2022, cette année, puisque ces deux partis n'ont pas repris, n'est-ce pas, leur puissance antérieure. Du même coup, on se trouve devant un hypercentre depuis 2017, et comme vous le disiez, avec en face deux radicalités. Où est l'alternance possible? Où est l'alternance possible? Et c'est ça le danger extrême de ce qu'on peut appeler l'extrême-centre ou l'hyper-centre qui provoque cette montée aux extrêmes. Et aujourd'hui, la plupart des commentateurs jugent que la prochaine fois, en 2027, eh bien, ça sera un affrontement entre ce centre et Marine Le Pen et le parti de Marine Le Pen. Ce qui reste à voir, hein, parce que il ne faut jamais juger de l'avenir. Mais tout de même, nous sommes aujourd'hui dans une sorte d'impasse du point de vue de la démocratie alternante.
Gilles.
Natacha disait tout à l'heure, la France n'a jamais connu le bipartisme. Elle n'a pas connu le bipartisme au sens d'un régime britannique ou d'un régime américain, mais elle a connu le bicampisme, c'est-à-dire il y avait deux camps, la gauche et la droite.
J'ai jamais entendu ce mot.
Vous consacrez un papier dans les appendices à la fièvre hexagonale dans les cahiers français de 2018 à l'opposition gauche-droite dans la vie politique française est-elle un mythe, dans lequel vous dites notamment... Vous relativisez la dimension très structurante par rapport à ce qu'on a dans notre imaginaire collectif du climat gauche-droite, mais vous dites que c'est paradoxalement le gaullisme, l'élection du président du suffrage universel direct qui a instauré comme clivage central le clivage gauche-droite. Arrive de 2017, nous sommes aujourd'hui largement dans une tripartition de l'espace politique et on a vu que dans la mobilité électorale qui était très forte, elle se faisait pour l'essentiel à l'intérieur de chacun de ces espaces politiques. Est-ce que vous pensez que, d'une part, l'élection du président sur l'universel direct, qui marche très bien quand il y a deux camps, marche beaucoup moins bien quand il y en a trois, parce que, y compris, la légitimité qui est donnée à celui qui l'emporte est beaucoup plus faible. Et est-ce que cette tripartition, c'est un moment, ou est-ce que c'est un tournant? Est-ce qu'on va s'installer durablement dans cette tripartition de l'espace politique?
Michel Vinocq.
Je ne sais pas lire l'avenir.
C'est le problème des historiens, on aimerait qu'ils tirent des leçons du passé et qu'ils nous disent ce qui va se produire.
Oui, mais c'est pas la même chose que de prédire l'avenir. Vous me faites penser à une phrase de Tocqueville qui disait le tableau de l'avenir est formé par un hasard dans lequel l'œil de l'intelligence ne peut entrer. Et effectivement, il y a ce qu'on appelle la contingence. L'événement surprenant, regardez ce qui s'est passé dans les années qui viennent, qui sont arrivées, le Covid, la guerre en Ukraine, qui avait prévu cela? Personne. Donc, je me méfierai toujours de faire des prévisions. L'avenir, ce n'est pas l'aboutissement des courbes, parce que les courbes, elles peuvent varier sous l'effet de la contingence, ou comme Tocqueville
disait... Malgré la contingence et malgré l'imprévisibilité,
du hasard.
Emmanuel Macron a été réélu, et il a une majorité.
Oui, alors,
Non, je le dis en souriant, oui. C'était pas vraiment une question, mais pour dire qu'il a réussi l'impossible. Et puisque vous parlez de l'homme providentiel et de la volonté française de régulièrement chercher un homme providentiel, j'invoquais uniquement le président de la République, Natacha Polony.
Oui, vous évoquez les crises et cette idée d'ailleurs qu'on trouvait chez De Gaulle d'environ une crise tous les 12 ans en France, c'est ça. Et la question, c'est la nature de ces crises. Parce que à un moment donné, vous dites, finalement, quand on regarde l'ensemble des crises sur la Troisième République, la lutte des classes n'est pas forcément au cœur de ces crises. Est-ce que aujourd'hui on n'a pas un retour de cette lutte des classes? On est en train de parler depuis le début des institutions. Mais finalement, est-ce que ce qui est le plus frappant aujourd'hui dans la situation actuelle de la France, ce sont les institutions et peut-être leur blocage? Ou est-ce que ce n'est pas le fait qu'il y a un retour massif de cette lutte des classes? Christophe Guillouis, qui sort un livre là qui s'appelle Les Dépossédés, analyse par exemple des faits essentiels, la question le fait que les gens n'ont plus les moyens de vivre là où ils sont nés, ce genre de phénomène qui est en train de remonter, qu'on a vu évidemment dans la crise des Gilets jaunes. Donc, est-ce pour vous un retour de la lutte des classes? Et si oui, pourquoi?
Michel Vinot.
Alors, la lutte des classes, dans la terminologie habituelle, marxiste notamment, c'est l'affrontement entre la bourgeoisie et le prolétariat. Or, de ce point de vue, la lutte des classes n'existe pas, n'existe plus. Il y a des luttes de classes. Car il y a des classes sociales, il y a des groupes sociaux qui ont des intérêts assez divergents. Si vous prenez l'exemple des Gilets jaunes, voilà une catégorie de Français qui ont été frappés par les problèmes de l'automobile, des taxes sur l'essence, etc., pour des raisons de localisation géographique, bref, qui ont une certaine hétérogénéité même dans le rang, mais quand même, qui se distingue nettement, je dirais, des ouvriers syndiqués à la CGT, qui forment, si vous voulez, un autre noyau de l'aide de classe avec les cheminots, etc. Et vous avez le problème des classes moyennes, enfin bref. Il n'y a plus, si vous voulez, de lutte de classe binaire, manichéenne. Il y a une géographie et une société extrêmement... C'est un peu l'habit d'Arlequin, si vous voulez. Vous savez, Jérôme Fourquet a écrit ce livre qui s'appelle « L'archipel français ». Et du point de vue social, nous sommes dans un archipel. Voilà pourquoi je suis d'accord avec vous pour dire que les problèmes sociaux reviennent en force. Mais ça date aussi de la fin des Trente Glorieuses. Hein. Mais néanmoins, aujourd'hui, avec tous les problèmes que nous avons, nationaux et internationaux, c'est indiscutable. Et c'est pas par hasard que Marine Le Pen a pris comme slogan lors de la dernière élection le problème du pouvoir d'achat. Donc, d'accord là-dessus. Mais dire qu'il s'agit d'une lutte des classes au sens traditionnel, socialiste, marxiste du mot, je ne crois pas.
Gilles.
Je voudrais prolonger la question de Natacha. Elle parlait des Gilets jaunes dans un des appendices, à nouveau, à la fièvre hexagonale. Il y a
un
papier
texte qu'on trouve
sur les Gilets jaunes, dans lequel, c'est un thème sur lequel vous revenez à de nombreuses reprises, vous évoquez les trois démons de la discorde, je vous cite, que sont la question religieuse, la question du régime et la question sociale. Et c'est à chaque fois autour d'une question structurante que s'est nourri le clivage gauche-droite et les affrontements politiques en France. Quelle est pour vous la question structurante aujourd'hui? Est-ce que c'est l'une de ces trois-là? Est-ce que ça peut être la question environnementale?
Michel Vinocq.
Voilà une belle question à laquelle j'aurais du mal à répondre, parce que précisément...
Je vous pose des questions auxquelles j'ai moi-même du mal à répondre.
Précisément, en raison de ce que je viens de dire dans ma réponse à Natacha, à savoir la multiplicité des affrontements, et non pas d'affrontements binaires, du même coup, j'ai beaucoup de mal à répondre.
Pourquoi est-ce qu'on ne se révolte pas, Michel Vinocq? Ça, c'est la question que je pose à l'historien, puisque vous avez travaillé sur les crises, les révolutions, les révoltes. Vous avez écrit sur les Gilets jaunes, pour prendre la dernière révolte d'ampleur en France. En l'occurrence, le prix de l'essence est peut-être 100% supérieur à ce qu'il était au moment du mouvement des Gilets jaunes. Et il y a un rapport au pouvoir qui est toujours un rapport extrêmement compliqué. La défiance vis-à-vis des politiques, elle est toujours là. Le problème de la voiture, on en parlait tout à l'heure, il est toujours là. Et on ne se révolte pas.
On ne se révolte pas, mais je crois que nous sommes quand même dans une société révoltée, en tout cas.
Ah bah, il n'y a plus de mouvement des Gilets jaunes.
Écoutez, il y a plusieurs façons de se révolter. Quand vous avez près de 50%, parfois plus de 50% d'abstention aux élections, vous appellerez cela comme vous voulez.
Mais quand le litre de super est à 3 euros
aussi. Pardon ?
Le litre de super est à 3 euros et pourtant il n'y a pas de mobilisation. La taxe carbone a fait sortir des centaines de milliers de personnes sur les ronds-points en 2018.
Oui, mais regardez ce problème. On voit bien que le conflit est multiple. Vous avez le conflit entre les salariés des raffineries et puis les consommateurs qui voudraient faire le plein. Ça complique énormément les choses. Cela ne peut pas unifier un mouvement.
Natacha ?
Il y a peut-être un élément frappant également quand on regarde le paysage politique actuel et qu'on le compare à tout ce que vous décrivez sur les deux siècles qui nous ont précédés, c'est le fait que les combats qui étaient portés par la gauche depuis la Révolution française sont des combats qui étaient en fait idéologiquement pensés et structurés par la France, c'est-à-dire c'était le produit d'un héritage intellectuel. Aujourd'hui, on voit que la gauche, notamment dans sa forme qu'incarnent les insoumis, utilise, s'appuie sur des combats qui sont des combats pensés ailleurs, qui sont importés de la pensée américaine. Je pense à l'antiracisme, je pense au néo-féminisme. Pourquoi et qu'est-ce que ça change ?
Michel Villac.
Là, vous me soumettez un questionnaire qui est rude, hein, parce que comment expliquer cela ? C'est pas du tout évident. La réponse n'est pas évidente. Nous constatons effectivement qu'il y a une dépression, une régression de la pensée politique à gauche. L'une des raisons majeures, je pense, est que cette gauche socialiste, communiste, marxisante, évidemment, a été complètement défaite intellectuellement, je crois, par l'effondrement de l'Union soviétique et la fin du socialisme d'État. Je crois que c'est pas seulement les communistes qui ont été complètement ébranlés par l'événement, mais même cette gauche qui pouvait se référer au moins à un exemple, sinon un modèle de société anticapitaliste, socialiste. Aujourd'hui, cette utopie s'est effondrée. Et donc la gauche n'a pas su véritablement se repenser intellectuellement, politiquement, et elle se divise sur des thèmes, comme vous le dites, qui ne sont plus véritablement d'origine française, mais qui servent un petit peu, n'est-ce pas, de prêt-à-penser d'une gauche qui est d'abord, je crois, touchée intellectuellement.
On va devoir malheureusement en rester là, on avait tant de questions à vous poser, en tout cas c'est passionnant de vous écouter, passionnant de vous lire, Michel Vinocq. Il faut lire « Gouverner la France », ces différents textes, et ce n'est pas Gilles Finkelstein et Natacha Polony qui me contrediront, qui est publié dans cette belle collection Quarto chez Gallimard. Merci infiniment d'avoir été notre invité ce samedi, Michel Vinocq. Merci à Mathilde Clatt qui a préparé cette émission, à la réalisation Marie Mérier, à la technique Louis Audebert. À suivre sur Inter, le journal de Frédéric Barrère.